Seigneur Jésus, nous célébrons ta force, ta puissance, ta grandeur, ta magnificence. Toutes les caractéristiques de ton nom sont innombrables et nous pouvons les nommer tous et nous voulons juste reconnaître que tu es un Dieu, le Dieu qui nous dépasse, le Dieu souverain, créateur des cieux et de la terre, de tous les peuples, de toutes les nations, de toutes les tribus, de toutes les langues. Seigneur, combien tu es grand. À toi l'honneur et la gloire ce matin. Au nom de Jésus. Amen. Je vous invite à vous asseoir. Et ce matin, il y a un frère qui a fait récemment, il y a quelques mois, un voyage en Haïti. Et quand on a parlé d'avoir cette célébration multiculturelle, il nous a proposé de venir partager un tout petit peu de ce qu'il a vécu là-bas, qui est quelque chose qui a marqué sa conception ou sa vue des choses. Alors, dans cet élan de multiculturalisme, j'avais invité mon frère Éric Noël de Tilly à venir devant pour nous parler un peu, un petit résumé, un bref résumé d'une quinzaine de minutes de son voyage en Haïti.
Comment vous y êtes, mes chers frères et sœurs? Oui. Alors, mon nom est Éric Noël de Tilly. Je fréquente cette église depuis environ 5-6 ans. Je suis père de 4 enfants et bien sûr marié à Sophie Larue, qui est une belle et unique épouse et que j'apprécie bien. Je vais vous parler de mon voyage missionnaire que j'ai fait en Haïti du 21 mars dernier jusqu'au 17 avril. Et donc, je suis parti pendant un mois, puis je vais vous parler comment Dieu est, on le dit souvent, hein, comment Dieu est bon et fidèle, et comment à travers moi qui a été un de ses instruments, on peut vraiment glorifier Dieu grâce, bien sûr, à sa force qu'il peut nous donner à chaque instant. Mais pour vous mettre un peu en perspective, je veux reculer un peu en arrière, parce que en 2010, je suis tombé malade et j'ai été diagnostiqué par une cholangite sclérosante et une maladie auto-immune. Donc, à peu près ce que Dono, ma sœur qui est là en ce moment, je te salue, passe à travers aussi. Donc, j'ai besoin d'une transplantation de foie d'ici quelques années. Alors, je prends 800 $ de médicaments par mois. Donc, c'est une maladie qui est dégénérative. Et c'est certain que ça affecte énormément le quotidien et ainsi de suite. Donc, ça s'est mis en perspective. Et disons que ça fait réfléchir énormément. Et je suis un enseignant, moi, à l'école polyvalente de Carrefour. Donc, j'enseigne en secondaire 5, puis j'enseigne Monde contemporain, qui est un cours de géographie, poétique et histoire. Et j'enseigne, bien sûr, c'est un cours extraordinaire, et j'enseigne sur différents sujets, et bien sûr, sur le missionnariat, mais j'enseigne surtout sur différents sujets qui relient à l'international. Puis j'ai toujours voulu aller faire un voyage à l'étranger, puis je me suis dit, ben pourquoi pas y aller tout de suite, on ne sait jamais qu'est-ce qui peut arriver dans les années qui suivent. Alors, j'ai décidé de faire un voyage en Haïti. Puis je me suis dit, Eric, est-ce que ça vaut vraiment, c'est très sécuritaire de faire ce que tu veux, aller en Haïti, qui est quand même un pays du tiers-monde, le pays le plus pauvre de l'hémisphère ouest, et surtout avec qu'est-ce que tu as comme maladie. Mais je me suis dit, non, Dieu est en contrôle. Dieu, s'il veut vraiment que j'aille, il va ouvrir les portes et je vais pouvoir y aller. Donc, on commence à les vaccins, les ci, les ça. Et là, je devais avoir un vaccin sur la typhoïde. Alors, finalement, j'arrive au médecin. Bien là, finalement, on ne peut pas donner la typhoïde puisque c'est un vaccin qui est vivant. Alors, vu que ton système immunitaire est très bas, tu ne peux pas l'avoir. Mais finalement, ils ont réussi à trouver un vaccin dit mort et j'ai pu être vacciné. Alors, j'avais le feu vert pour aller en Haïti. Bien sûr, j'en ai parlé à mon épouse avant tout. Elle était d'accord pour que je puisse y aller. Alors, j'ai commencé à ramasser des sous à travers la Fondation Paul Gérin Lajoie, qui est une fondation, qui est une ONG québécoise qui s'occupe des différentes écoles primaires à travers le monde, soit au Mali, en Haïti et au Bénin, pour bien sûr offrir une éducation de qualité aux enfants. Alors, j'ai fait des levées de fonds à travers la commission scolaire, puis on a réussi à ramasser 15 000 $ pour le projet en Haïti. Alors, j'étais tout content, prêt pour y aller. On y va. Alors, je décide de prendre l'avion, bien sûr, le 21 mars pour me rendre en Haïti. Et tu peux changer. Ah, OK. Ça, c'est... Comment ça marche? Celui-là. Bon. Ah, parfait. Donc, une toute petite seconde, j'ai une chose à faire. Là, je quitte un monde. Voilà. Alors là, vous avez un T-shirt qui est inscrit le nom de plusieurs enfants qui étaient à l'orphelinat où j'ai été, qui est situé à l'île à Vache. Donc, l'île à Vache, en Haïti, vous atterrissez à Port-au-Prince, vous prenez, bien sûr, un taxi ou un camion et vous descendez. Ça prend 5 heures de temps pour descendre au sud, au Cay. Et arrivé au Cay, on prend le bateau, c'est-à-dire à peu près 40 minutes pour se rendre sur l'île à Vache. Et pour aller rejoindre une sœur qui s'appelle sœur Flora Blanchette, que vous voyez à gauche. Elle est toute petite, mais croyez-moi, faut pas se fier à sa grandeur. Elle est là depuis 1981. Le Seigneur l'a dirigée sur les Lavaches et elle s'occupe, elle a bâti cet orphelinat-là. Et depuis, bien sûr, 1981, ça s'est agrandi. Et aujourd'hui, elle s'occupe d'à peu près 70 jeunes, dont 24 handicapés. Alors, me rendant à l'île Lavache, j'ai été aidé sœur Flora dans son quotidien, apprendre, bien sûr, à être avec les enfants, à être avec les enfants handicapés. Et ça a été une expérience vraiment incroyable. Maintenant, tout le monde peut faire des voyages humanitaires, c'est certain, mais faire des voyages missionnaires, c'est autre chose, c'est d'essayer de parler de Jésus à travers tout ça. Donc oui, on peut parler à travers nos actions en aidant et ainsi de suite, mais aussi il faut en parler aussi en parole. Alors là, comment que j'ai réussi à faire ça, c'est que tu peux changer la diapositive. C'est vrai que moi j'ai le... Bon, vous voyez ici l'orphelinat. Peux circuler, excuse-moi, circuler une seconde. Donc, vous avez à droite, ça c'est le premier bâtiment où maintenant sont situés les enfants handicapés. Ils ont construit d'autres bâtiments connexes à gauche pour les autres enfants. Et là, tu peux continuer, là, tu peux changer. Ça, c'est en face. Vous avez un jardin dont ils peuvent s'amuser. Et la maison, je ne sais pas si vous voyez que toit rouge en arrière, c'est là où ils emmènent les enfants handicapés se faire laver et se faire nourrir à tous les jours. Vous avez à droite la cuisine. Tu peux changer. Donc, vous avez à gauche le bois qu'on utilise pour chauffer. Et bien sûr, c'est une des chambres où couchent à peu près 7 à 8 filles à tous les jours. Vous voyez les matelas qui sont superposés. Alors, comment, bien sûr, comment parler de Jésus à travers tout ça? À tous les soirs, sœur Flora, avant d'aller se coucher, réunissait les enfants en cercle. Et priait. Alors, il priait et chantait. Et moi, j'ai dit, bon, mais ça, c'est mon heure de gloire, allons-y. Fait que là, je priais aussi pour le Seigneur donner la force et le courage de le faire. Alors, sœur Flora priait. Et à un moment donné, il y avait différents enfants qui priaient aussi. Et par la suite, j'ai décidé de prier avec eux autres. Et puis, sœur Flora, quand elle prie, là, elle parle pas fort. Elle parle vraiment pas fort. Fait que les enfants font vraiment, là, très, très attention. Puis moi, j'arrive, je vois quand même qui porte. Puis là, je commence à prier fort. Les enfants partent à rire, là, parce qu'ils étaient, ils n'étaient pas habitués, premièrement, d'avoir une voix aussi forte, bien sûr, pour devant eux. Deuxièmement, un blanc croyant, chrétien, qui prie avec sœur Flora, il y a quelque chose qui n'allait pas, là. Puisque la majorité des Blancs qui vont en Haïti, oui, ils font des voyages humanitaires et ainsi de suite, mais la majorité sont non-croyants. Donc, pour eux, c'était toute une expérience à vivre qu'un grand gars, 10 pieds 1, blanc, jeune quand même, relatif, va prier avec eux autres. Donc, j'ai créé un lien avec ces enfants-là en voyant prier, et à chaque soir, Sœur Flora me demandait de prier avec eux autres. Et qu'est-ce que j'ai pu constater, c'est que Sœur Flora, c'est une femme incroyable. J'ai rarement vu une femme qui met la Bible en action comme elle le fait, dépendre de Dieu à tous les jours. Oui, elle est catholique, mais elle a compris le plan du salut et ainsi de suite, et elle l'applique. C'est tellement beau à voir. Mais en même temps, elle était tellement contente que quelqu'un puisse arriver devant les enfants et faire des mini-études bibliques avec eux. Alors, tous les soirs, je prenais un verset, puis je jasais avec eux autres. Et aussi, c'était Pâques qui arrivait, donc la semaine avant Pâques, j'ai pu présenter là par étapes hein, de Genèse et ainsi de suite, la chute, et j'ai parlé avec ces enfants-là, et ça a été incroyable. Puis j'avais acheté des bracelets aussi là avec Jésus là inscrit dessus, je leur en ai donné, ils étaient tout contents là, fait que là... On s'est bien amusé avec ça et j'ai pu, oui, évangéliser avec eux autres. Et ils chantaient une chanson pratiquement tous les soirs qui ressemblait, qui ressemblait à ceci, était, vous allez entendre ces enfants-là chanter cette chanson-là. Faites les gars, faites un peu. Rendez grâce au Seigneur car il est bon. C'est beau. Parfait. On peut-tu avancer, Elias? Donc, voici quelques enfants. Donc, j'ai pris en photo. C'était très difficile de prendre des photos à l'orphelinat parce qu'ils sont faits souvent avoir par des étrangers qui ont pris des photos et qui ont exploité ces photos-là pour faire de la publicité par la suite dans leur pays puis ramasser des sous. Donc, ils étaient très, 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 très là, alertes à des gens qui prennent des photos. Mais voici quelques exemples de chers enfants que j'ai côtoyés pendant un mois. Vous avez aussi sur la table de la pâte à dentifrice et des brosses à dents que j'avais amenées et de la soie dentaire. Une anecdote. Eux autres, ils prennent ce qu'ils ont pour faire, bien sûr, des jouets ou ainsi de suite. Puis il y en a un, tu peux poursuivre, Elias, avec la prochaine photo. Dont un Fednol que vous voyez ici, qui était le maître coiffeur de l'orphelinat. Et d'ailleurs, il m'a coiffé deux fois avec à droite, qu'est-ce que vous voyez, l'outil qu'il prenait. Donc, une lame de rasoir que vous voyez, vous prenez un peigne et il accrochait la lame de rasoir au peigne. Et selon l'épaisseur de cheveux que tu veux avoir, il reculait la lame de rasoir parce que le peigne est plus épais au fur et à mesure qu'on va en arrière. Alors, il rasait les gens avec ça. Il faisait un très, 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 très bon job. Très habitué. Sauf que... pas tout de suite. Sauf que Fennel faisait des cerfs-volants et il manquait de cordes. Fait qu'à un moment donné, moi, j'arrive durant la journée, je circule, je m'en vais les voir. Puis là, je commence à les voir jouer avec quelque chose. Puis il y avait un paquet de petites choses par terre, rondes. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris toutes les fils de soie dentaire. Ils ont tout retiré la soie dentaire dans le contenant. Ils les ont attachés un après l'autre. Et voilà, il y avait de la corde pour leur cerf-volant. Ça, je ne l'ai pas dit à ma dentiste qu'ils ont fait ça. Qu'est-ce qui est le plus touchant? Oui, c'est vrai. Ben, par exemple, Fennel, vous le voyez pas, mais Fennel est handicapé. Fénol n'a pas de fémur. Donc, son genou ici rentre dans sa hanche. Donc, c'est quand même assez spécial. Il est tout à fait normal physiquement, sauf ça, entre guillemets. Et c'est vraiment absent et sa hanche est un peu plus large parce que ses genoux sont incorporés dedans. Et vous savez qu'en Haïti, je sais pas uniquement en Haïti, mais les enfants handicapés, on les appelle les pas bons. Hein, ils ont pas le droit d'être là, c'est les pas bons. Alors là, cette sœur Flora-là a dit, il est hors de question. Alors, elle prend tout enfant handicapé qu'on lui amène. Et tu peux continuer. Et ces enfants handicapés-là sont pris, bien sûr, on en prend soin. Ils en ont à peu près une vingtaine. Sauf que oui, ils sont lavés une fois par jour. Ils ont deux couches par jour. Le matin en se réveillant, et le soir en allant dormir, et c'est tout. Et durant la journée, on les nourrit, mais ceux qui s'occupent d'eux n'ont pas beaucoup d'interaction avec eux autres. Donc oui, on va les nourrir, oui, on va s'en occuper, mais pas plus. Et vous voyez, ils ont des sourires extraordinaires, et ça prend pas grand-chose. Ça prend juste de s'amuser avec eux autres, et vous voyez celle à droite, c'était tellement drôle, c'est pour ça qu'elle était assise là-bas. J'arrivais là tranquillement pour pouvoir la chatouiller là, puis elle faisait un de ses sourires, juste ça, uniquement ça. C'était tellement beau, mais les besoins sont grands. Et vous voyez ici, il y a beaucoup de chaises roulantes, oui, mais sont mal adaptées aux besoins des enfants. C'est vraiment le strict minimum. Ces enfants-là sont laissés à eux-mêmes sur le tapis, on joue pas avec eux autres et ainsi de suite. Et vous voyez le jeune homme à gauche qui fait de l'encéphalie. C'est ça. Merci, madame. Et qu'est-ce que c'est? C'est la tête grossit. Et il y en a une autre orpheline qui s'appelle Angéline, qui, elle, a été opérée aux États-Unis. Ils ont trouvé des sous et ça a fonctionné. Ils ont réussi à l'opérer lui aussi, mais ça n'a pas fonctionné pour lui. Alors, sa tête va grossir et on devine ce qui va arriver un peu plus tard. Donc, peux-tu continuer? Donc, ça, c'est une église que j'ai fréquentée au CAI. Donc, c'est le bâtiment. Donc, c'est à l'extérieur, vous voyez, c'était extraordinaire. Et les gens étaient là, tout bien habillés, tout propres, et on glorifiait Dieu là à tous les dimanches. Donc, ce voyage-là m'a énormément touché, m'a énormément influencé, et j'ai pu voir Dieu à l'œuvre à tous les instants, à tous les jours, parce que la chaleur était insupportable. Deuxièmement, il y avait un risque que je sois infecté par la maladie de dengue, la fièvre jaune et ainsi de suite, parce qu'il n'y a pas de vaccin pour ça. Mais je me dis, Seigneur est là, Seigneur me protège. À un moment donné, je prenais le bateau pour aller sur l'île. C'est un bateau public. Donc, dans les bateaux publics, en Haïti, il y a toujours de la place pour tout le monde. Toujours de la place pour tout le monde. Donc, c'est une grosse chaloupe. Puis dans la chaloupe, elle est longue de moi jusqu'au piano et large à peu près de 3-4 pieds. Là. Puis il y avait 25 personnes là-dedans. Puis là, croyez-moi, là, le bateau là, était à peu près là, à 2-3 pouces de l'eau. OK? Puis là, il faut que tu traverses là, le canal pour aller jusqu'à l'île la vache. Là. Puis ça, c'est 40 minutes. Là. Moi, j'étais là, puis j'avais à un moment donné, je partais à rire parce que j'avais un haïtien à côté de moi, puis on partait à rire, puis on se dit, ben là, je pense qu'on va aller nager avec les poissons aujourd'hui parce que là, ça n'avait pas de sens. C'est incroyable les risques qu'on peut prendre, mais pour eux, c'est leur quotidien, c'est avec ça qu'ils prennent le risque, puis ils le savent, mais c'est comme ça. Et les trois mots qu'on peut résumer à Haïti, c'est vraiment ça, c'est comme ça. Qu'est-ce qu'il va prendre en Haïti? Vous préférez? Ben c'est comme ça. Est-ce que vous voyez pas ça? Ben c'est comme ça. Est-ce que c'est vraiment trois mots qu'on peut résumer en Haïti? Je pourrais parler d'Haïti encore pendant une demi-heure, 45 minutes. Toutes ces difficultés, vous le savez. Mais n'empêche que j'ai rencontré des gens extraordinaires là-bas. J'ai rencontré des gens au quotidien qui veulent aider les gens autour d'eux. Et le Seigneur est à l'œuvre en Haïti, je vous le dis. Souvent, on entend dire que le Seigneur a oublié Haïti et ainsi de suite. Ce n'est pas vrai. Oui, il y a du vaudou, oui, il y a ci, oui, il y a ça. Mais n'empêche qu'on peut dire la même chose par rapport ici au Québec. Il n'y a pas de vaudou, mais c'est autre chose. Alors, ils vivent à un niveau matériel très différent de nous, mais ils sont très résilients, ils sont très heureux malgré tout avec ce qu'ils ont. Ils ont quand même une leçon extraordinaire à nous donner, parce que avec le peu qu'ils ont, ils sont heureux. Parce que c'est sûr qu'ils veulent améliorer leur sort, c'est sûr et certain. Là. Mais n'empêche que lorsque je fais une comparaison entre ici et là-bas, oui, on a tout ici, on vit dans l'abondance, on est très autosuffisant, et ainsi de suite, mais regardez le résultat que ça donne aussi. Donc, ça change le monde faire un voyage, et je vais y retourner. Parce que le Seigneur m'appelle à aller aider ces gens-là, puis on ne sait jamais si des gens dans la salle veulent me joindre à un moment donné à un de ces voyages-là, bien, vous êtes bienvenus. Merci beaucoup.
Merci beaucoup, Eric, pour ce partage, ce qui nous montre qu'on n'est pas seul. Hein? Il y a tellement de choses qui se passent dans le monde, et si Dieu nous donne l'honneur et le privilège de voyager, on se rend compte qu'il est à l'œuvre de différentes façons. Il nous prend où on est et il chemine avec nous. C'est ça la beauté de notre Dieu qui apprécie la diversité. Les cultures sont différentes, les gens sont différents, mais le Seigneur demeure toujours le même. Et ça, c'est beau. J'aimerais juste faire quelques partages avec vous pour continuer. Et je ne sais pas si les versets sont marqués dans Ecclésiaste. Est-ce qu'on a ces versets? Oui. Alors, on lit Ecclésiaste chapitre 3. Il y a un temps pour tout. Un temps pour toutes choses sous les cieux. Un temps pour naître. Un temps pour mourir. Un temps pour planter. Un temps pour arracher ce qui a été planté. Un temps pour pleurer. Un temps pour rire. Un temps pour se lamenter. Un temps pour danser. Un temps pour aimer. Un temps pour haïr. Un temps pour la guerre. Et un temps pour la paix. C'est vrai, c'est la réalité de la vie. Il y a des circonstances qui traverse notre vécu. Et au cours des derniers jours, la dernière dizaine de jours, je dirais que l'Église a vécu des jours éprouvants, des jours difficiles à plusieurs égards, mais les liens qui nous unissent ont été éprouvés, mais à mon avis, se sont retrouvés renforcés. Gloire à Dieu. Oui, il y a un temps pour toutes choses sous le soleil, et aujourd'hui, ce dimanche, je dirais que c'est le temps de célébrer la diversité que Dieu a mise au sein de ton Église. Et cette diversité qui est un signe indéniable de richesse, cette richesse que nous avons dans le Seigneur. On pourrait penser qu'au temps de Jésus, il n'y avait pas autant de diversité dans les églises, mais c'est peut-être vrai, il n'y avait pas autant de moyens de communication, beaucoup d'avions ou des moyens aussi rapides qu'on a aujourd'hui, il n'y a pas Internet à l'époque, mais quand on prend la ville de Jérusalem, par exemple, qui est un grand centre, un grand centre commercial, et dans d'autres villes, des villes en Asie mineure, il y avait certaines grandes villes où il y avait beaucoup de personnes qui venaient pour des occasions spéciales. Quand on se rappelle, par exemple, le jour de la Pentecôte, on disait qu'il y avait des Mèdes, des Perses, plusieurs cultures, plusieurs personnes qui étaient là rassemblées lorsque l'effusion du Saint-Esprit, comme promis par Jésus, est arrivée. Donc, au temps de Jésus aussi, il y avait de la diversité de cultures dans certains endroits, dans certaines villes. Et certes, cette diversité, même si elle n'est pas reflétée comme on le vit aujourd'hui dans notre Église, par exemple, on voit beaucoup, beaucoup de gens, ne serait-ce que les différentes langues qu'on a utilisées aujourd'hui dans la lecture de la parole, dans les chants. Et cette diversité l'est de nos jours et Dieu veut utiliser cette diversité pour la propagation de l'Évangile. Tous ceux qui étaient à Jérusalem lorsque Pierre a prêché et que 5000 personnes se sont converties ce jour-là, ces personnes sont parties chez elles dans leur pays, dans leur contrée respective, et ils ont continué à annoncer la parole de Dieu. Donc, Dieu veut utiliser la diversité, la variété qu'il y a au sein de son peuple pour la propagation de l'évangile de Jésus-Christ. Comme il a promis hein, dans Actes chapitre 1, verset 8, Jésus a dit, « Je vous enverrai le Saint-Esprit et vous serez mes témoins. » À Jérusalem, là où le Saint-Esprit a été donné, dans toute la Judée, un peu plus loin, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. C'est ce à quoi Dieu nous appelle. Et effectivement, notre modèle dans tout cela, c'est Jésus. Et notre référence, c'est sa parole. Notre boussole, celui qui nous montre le chemin à suivre, c'est effectivement la parole de Dieu. Et dans la Bible, on voit plusieurs endroits où Jésus a été comme coincé dans le coin, dans un coin littéralement, où on lui posait des questions pièges et on sait que Jésus s'est sorti toujours avec brio de ces coins-là et de ces questions. Il venait juste de répondre à certaines questions pièges aussi à propos de faut-il payer l'impôt à l'empereur, à César, qui était en fait l'envahisseur. Est-ce qu'il y a une vie après la mort? Est-ce qu'il y a une résurrection? Et tout cela, ces questions que Jésus a composées à Jésus, il y a répondu et on disait que l'assistance avait bouche bée, n'avait plus rien à dire. Et les pharisiens, dont un en particulier, un docteur de la loi, le plus érudit de la société, un s'était approché pensant que lui, il pourrait déjouer à nouveau Jésus et il est venu pour lui poser une question. Et cette question est, on sait que l'Ancien Testament est long, vaste, large. Et il dit à Jésus, quel est le plus grand commandement? Difficile à répondre si on nous pose cette question aujourd'hui. Et de cette question est sortie une réponse sublime qui a été consignée dans les évangiles et qu'on peut lire dans Matthieu chapitre 22. Quand Jésus répond à cette question, quel est le plus grand commandement? Jésus répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et la parole nous dit que de ces deux commandements découlent toute la loi et tous les prophètes. Tout ce que les prophètes ont annoncé avant Jésus, Jésus a résumé tout cela en ces deux choses. Aime ton Seigneur, le Seigneur ton Dieu et aime ton prochain comme toi-même. Autant on peut dire que toute la Bible est résumée dans le verset 16 de Jean chapitre 3, qu'on connaît tous, qu'on a encore lu ce matin. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Autant tout l'Ancien Testament peut être résumé en « aime le Seigneur et aime ton prochain ». Et généralement, on se demande, c'est qui vraiment le prochain? Jésus a donné une bonne illustration dans la parole en nous montrant qui est notre prochain. En fait, ton prochain, c'est ton voisin de chambre, ton voisin de rue. Ton prochain, c'est celui que tu croises en marchant, en cheminant. C'est peut-être ton collègue de travail. Ton voisin, c'est celui que le Seigneur met devant toi, celui que le Seigneur met à tes côtés et celui que le Seigneur veut que tu aides. Ça peut être éventuellement aller en Haïti, comme notre frère vient de nous partager. C'est cela, ton voisin. Ça peut être simplement aller à Jibekado, comme certains de nos jeunes sont en route en ce moment, cheminant vers Plessisville, pour aider notre voisin. Ça peut être n'importe qui que le Seigneur met devant nous. Et ces jeunes reviendront la semaine prochaine ici à Gatineau pour aider leurs voisins. C'est notre communauté. Et l'apôtre Jacques a rajouté dans Jacques chapitre 2, versets 8 à 10, si vous accomplissez la loi royale selon l'Écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même, vous faites bien. Mais si vous faites acception de personne, vous commettez un péché. Vous êtes condamné par la loi. Acception de personne, ça veut dire favoritisme. Vous êtes condamné par la loi. Car si quelqu'un, quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, il est en faute vis-à-vis de l'ensemble. Ce qui nous montre que réellement, c'est mission impossible. Tu pêches contre un seul commandement, tu es coupable envers tous. Et c'est cela qu'on appelle la miséricorde. Parce que c'est simplement mission impossible pour tout homme de pouvoir être saint sans commettre de péché contre aucune des prescriptions de la loi. Et quelqu'un l'a bien dit en disant que la miséricorde, en fait, c'est, Eric disait tout à l'heure qu'ils ont pris son fil dentaire. La miséricorde, quelqu'un disait que c'est la corde que Dieu nous tend pour nous sortir de notre misère. Et c'est cela la miséricorde. Et tous, nous sommes dans la misère. Si on voit notre condition humaine, avec le péché qui est entré dans ce monde, nous sommes dans la misère, sans exception. Et Dieu nous tend sa corde pour nous tirer de cette misère. Et personne, vraiment personne, n'a rien fait pour mériter cela. Et c'est ce qu'on appelle la grâce de Dieu. Et nous ne pouvons pas, et ne devons surtout pas la garder pour nous-mêmes et pour nous seuls. Vous savez, il y a plusieurs dans la parole de Dieu, dans l'Ancien Testament, entre autres, il y a un en particulier qui a dit que non, moi-même et mon peuple, nous pouvons avoir la grâce de Dieu, la miséricorde de Dieu, mais pas les autres. Vous savez de qui je parle? Jonas. Et vous savez ce qui lui est arrivé? Il a abouti dans le ventre d'un poisson. Et si Jonas pouvait nous décrire ce à quoi ça ressemble, rester dans le ventre d'un poisson pendant 3 jours, je pense que ça ne serait pas très drôle. Et si Jonas savait que c'est ce moyen de locomotion que Dieu allait utiliser pour l'amener finalement à faire ce qu'il veut, c'est-à-dire apporter sa grâce et sa miséricorde à d'autres nations, il aurait dit, non Seigneur, montre-moi, c'est quand le premier vol ou c'est quand le premier bateau, je le prendrai et j'irai bien. Alors, Dieu veut que le salut, la grâce qu'il nous a donnée, on l'apporte à toutes les nations, à toutes les cultures, pas le garder pour nous tout seuls. Et comme je l'ai dit tantôt, notre prochain, ceux à qui on doit apporter cette grâce, c'est tout le monde que Dieu met sur notre route. Et il y en avait aussi un qui a refusé de comprendre que la miséricorde de Dieu s'étend à d'autres cultures aussi. Et celui-là également, c'est l'apôtre Pierre, que vous connaissez bien, qui était très, très résistant, qui disait « Non, je ne veux rien savoir, je ne peux pas aller, je ne peux pas toucher quelque chose d'impur. » Il qualifiait ce que Dieu a sacré, pur, il le qualifiait d'impur, comme on voit dans Actes 10, 15, « Ce que Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas comme impur. » Et Dieu lui a dit ça à plusieurs reprises avant qu'il le comprenne réellement. Et Dieu a transformé l'apôtre Pierre à ouvrir les yeux sur ce qu'on appelle les gentils ou les païens pour qu'il soit l'apôtre qui apporte la bonne nouvelle, comme on le sait aujourd'hui dans la parole. Donc il n'y a aucun doute que la diversité, c'est un défi, un grand défi de pouvoir vivre avec des gens qui n'ont pas la même conception que nous, des gens qui n'ont pas la même vision des choses que nous, qui n'ont peut-être pas la même couleur de peau que nous, des gens qui n'ont pas été éduqués comme nous. C'est un défi, mais aussi c'est toute une bénédiction, toute une richesse. Et je nous encourage à ce que nos préjugés ne nous entraînent pas loin des voies de Dieu. Et vraiment, ce n'est pas juste au Canada ou en France ou dans les pays occidentaux qu'on pense que la diversité pose problème, mais aussi, je donnerai simplement mon propre exemple. Quand moi, je partais de mon petit pays, très beau pays, le Togo, pour aller en France pour étudier, j'étais assez jeune et puis je commençais à penser à me marier. Quand je partais de mon pays, mon idée était faite dès le début que je m'en vais, j'étudie pour 4-5 ans en France et je reviens dans mon pays pour me marier. Parce que dans mon petit village au Togo, se marier avec un étranger ou un Européen, par exemple, ça veut dire qu'on renie la famille. C'était ça le préjugé qu'on avait quand on se marie avec un Blanc, en particulier un Noir qui se marie avec un Blanc, il rejette sa famille, il ne revient plus. Mais pour ceux qui me connaissent, vous savez où j'en suis aujourd'hui. Alors, j'ai la femme la plus belle et la plus inimaginable possible, la plus blanche possible aussi. Elle bronze jamais, elle brûle plutôt. Alors, Donc c'est ça, nos préjugés, si je tenais vraiment à mon préjugé de mon village, disant que tu te maries avec un blanc, ben, tu renies la famille, je n'aurais pas écouté le plan de Dieu. Donc ne laissons pas nos préjugés nous détourner des chemins que Dieu nous a tracés. Et c'est ainsi que c'était pour Pierre aussi, pour les Juifs, il était même dit, vous savez, Pierre disait, vous savez qu'il est défendu à un Juif de se lier avec un étranger ou d'entrer même chez lui, jusqu'à ce point-là. Mais Dieu m'a appris à regarder, à ne regarder aucun homme comme souillé et impur. C'est pourquoi je n'ai pas eu d'objection à venir. Gardons nos oreilles ouvertes, gardons nos yeux ouverts à ceux et celles que Dieu met à nos côtés. Qu'est-ce qu'il ou elle peut m'apporter? Qu'est-ce que Dieu veut m'enseigner au travers de lui? Alors Pierre a ouvert la bouche et il a dit, « En vérité, je reconnais que Dieu ne fait point exception de personne. Il n'a pas de préférence. Mais qu'en toute nation, celui qui craint Dieu et qui pratique la justice, lui est agréable. » Vous savez, étrangers, on l'est tous. On est tous étrangers. Nous sommes tous étrangers sur cette terre. Et on l'oublie parfois, malheureusement. Ne nous laissons pas égarer par les termes officiels. Par exemple, moi, quand j'appliquais pour venir au Canada, on m'a dit qu'il faut appliquer pour la résidence temporaire, après la résidence permanente et ensuite la citoyenneté. Mais en réalité, on est tous des résidents permanents sur cette terre. Personne ne demeurera ici éternellement. Et notre citoyenneté, nous sommes des citoyens des cieux et non pas des citoyens de cette terre. Alors, où que vous soyez, moi j'ai 3 nationalités par exemple. Je suis togolais, je suis français, je suis canadien. Et je cherche une 4e, une 5e, une 6e là. Parce que je m'en fiche, je suis citoyen des cieux avant tout. Et que tout le monde me donne la liberté d'être où je veux. Et c'est de la même façon, on devait se sentir la liberté de dire, celui qu'on voit à côté de nous, c'est mon frère, c'est ma sœur. Parce que nous, après tout, nous sommes tous descendants d'Adam. Pratiquer la justice et l'équité. Délivrer l'opprimé des mains de l'oppresseur. Ne maltraitez pas l'étranger, l'orphelin et la veuve. N'usez pas de violence. Ne répandez point de sang innocent. Vous donnerez à l'étranger son héritage dans la tribu où il séjournera. Même les étrangers ont leur héritage. Dieu ne fait exception de personne. Il fait droit à l'orphelin, à la veuve. Il aime l'étranger, nous dit Deutéronome. Vous aimerez l'étranger car vous avez été étranger dans le pays d'Égypte vous-même. Tu craindras l'Éternel, ton Dieu, tu le serviras. Vous savez, cette semaine et la semaine dernière, c'est aussi la semaine des réfugiés. Et on voit dans le monde actuel qu'à cause du péché et de toutes les conséquences, il y a beaucoup de réfugiés un peu partout. Et c'est le fruit du péché, naturellement. Et je vois personnellement que notre Église n'a pas un problème avec la diversité. Et je vois que nous faisons un effort constant pour faire exprimer tous ceux qui sont au milieu de nous et qui sont différents. La preuve devant vous. Et je sais que ceci étant, notre adversaire, le diable, il rôde. Il faut qu'on fasse attention pour ne pas lâcher prise. Qu'on laisse le Seigneur exprimer sa volonté au milieu de nous. Et je ne vous apprends rien en vous rappelant qu'au ciel, on sera nombreux de toutes les nations, de toutes les tribus, les gens de couleur et même les incolores. Ils seront tous au ciel. Je n'ai toujours pas compris pourquoi on nous appelle des gens de couleur, mais bon, peut-être que vous n'avez pas de couleur. Alors, on sera tous au ciel, nombreux à le célébrer pour l'éternité. Et je veux qu'on prenne l'occasion d'être sur cette terre comme étant une pratique avant le grand bal, le jour-là. Alors, ouvrons-nous les uns aux autres. Et lorsque nous serons là-haut, nous parlerons différentes langues. Pas forcément le français ou l'anglais. Peut-être qu'on parlera le français ou l'anglais, mais ce qui est certain, c'est qu'on n'aura pas besoin d'interprète, parce qu'on comprendra tout. On n'aura pas besoin d'interprète pour comprendre le portugais, l'espagnol et tout le reste. On comprendra tout. Je finirai en disant, en relisant ces versets qui ont déjà été lus aujourd'hui dans Colossiens, chapitre 3, versets 11 à 15. Est-ce qu'on les a? Je vais le lire ici. Il n'y a ni ici ni grec ni juif, ni circoncis ni incirconcis, ni barbare ni scythe, ni esclave ni homme libre, mais Christ est tout et en tous. Ainsi donc, en tant qu'être choisi par Dieu, saint et bien-aimé, revêtez-vous de sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur et de patience. Supportez-vous les uns les autres. Si l'un a une raison de se plaindre d'un autre, pardonnez-vous réciproquement, tout comme Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus tout cela, revêtez l'amour, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection. C'est ce que le Seigneur nous donne aujourd'hui et le Seigneur nous exhorte à nous supporter les uns les autres. Ce n'est pas du tout péjoratif, ce n'est pas négatif. Supporter, se supporter, ça veut dire s'encourager, dépendre l'un de l'autre. Ce n'est pas parce qu'on est trop pénible qu'on se supporte, mais c'est pour qu'on puisse être un support, un soutien l'un pour l'autre. Alors, j'aimerais finir ce matin avec la lecture d'un dernier verset pour notre diversité. On va aller dans les pays arabes. Et je demanderai à notre sœur Rim, oui, où est-ce qu'elle est? Juste derrière, à nous lire deux versets dans le psaume 117, s'il vous plaît.
الرب لأنه صالح لأن إلى الأبد رحمته ليقل مفديو الرب الذين فداهم من يد العدو آمين
آمين Louez le Seigneur, louez l'Éternel, toutes les nations, célébrez-le vous, tous les peuples, car sa bonté pour nous est grande et sa fidélité dure à toujours. Louez l'Éternel. Amen. Gloire à son nom.